Père Philippe Desjean, bonjour et bienvenue sur nos ondes de Radio Maria France.
Bonjour, merci de votre accueil.
Cette émission s'intitule « Témoignage de prêtre ». Vous imaginez donc que c'est votre témoignage qui va nous intéresser. Je vous laisse tout d'abord vous présenter.
Alors, je suis prêtre du diocèse de Paris depuis le jour de mon ordination. C'était en juin 1985, vous voyez, un peu plus de 35 ans. Je suis prêtre à Paris, j'ai été ordonné par le cardinal Lustiger, voilà. Alors, depuis mon ordination... Alors, peut-être quelques mots avant mon ordination, c'est toujours intéressant, le parcours qui
a
précédé.
C'est typiquement même le format de cette émission, c'est en somme en trois points. Le premier point étant comment le doigt de Dieu s'est posé dans votre vie, comment a été ressenti l'appel à le suivre et à être consacré prêtre. Ensuite, les grandes figures spirituelles, ce qui vous guide dans la vie de prière. Et ensuite, votre apostolat. Voilà à peu près les trois volets de cette émission.
Très bien. Alors, je suis un pur produit de l'enseignement catholique à Paris. J'ai fait mes études, d'abord j'ai été pensionnaire en province, puis ensuite j'ai terminé au collège Stanislas à Paris. Et je me destinais à être professeur de lettres. Je suis un littéraire, j'ai toujours eu un grand amour de la littérature française. Et donc, après mon baccalauréat, j'envisageais de faire des études de lettres à la Sorbonne pour devenir professeur de lettres. Mais pendant mes années de lycée, toujours pour aborder la littérature sous un biais un peu différent, j'ai fait du théâtre amateur à Stanislas. Et puis j'ai continué après, en sortant du contexte scolaire, dans le contexte universitaire, j'ai continué à faire du théâtre. Et du coup, j'ai franchement hésité entre ces deux vocations, entre l'enseignement de la littérature française ou bien une carrière de comédien pour proclamer sur scène les belles pièces de la littérature française de nos grands auteurs dramatiques. Voilà. Mais parallèlement à ce parcours, voilà, il y a une vocation qui s'est dessinée. Écoutez, la première fois que j'en ai parlé, j'étais en classe de 5e. J'en ai parlé à mon aumônier et je me souviens très bien, donc j'étais pensionnaire, et je me souviens très bien qu'il m'a, lorsque je lui ai fait part de cette idée de vocation sacerdotale, il m'a dit une phrase très intelligente, il m'a dit « trop tôt pour décider, mais pas trop tôt pour réfléchir ». Voilà. Donc, j'ai mis du temps pour décider, puisque finalement je suis rentré au séminaire à l'âge de 26 ans, donc vous voyez, j'ai pris mon temps. Mais une réflexion et un parcours spirituel, qui d'ailleurs a passé par une tentative de vie monastique à l'abbaye de Saint-Vendry. À un moment donné, je me suis demandé si ce n'était pas plutôt une vocation de moine qui m'attendait, parce que je fréquentais régulièrement cette abbaye pour y faire des retraites spirituelles. Et donc, j'ai passé plusieurs mois à l'abbaye de Saint-Vendry pour faire un discernement. Et puis finalement, non, je n'étais pas appelé par le Seigneur à être moine, mais plutôt à être prêtre diocésain. Et donc, je suis rentré à Paris pour rentrer au séminaire. Voilà. Et donc, j'ai abandonné ma carrière de professeur de lettres et d'hypothétique comédien. Mais j'étais allé assez loin, puisque j'ai préparé et passé le concours d'entrée au Conservatoire national d'art dramatique, qui parfois ouvre les portes de la Comédie française. Voilà.
Ça, donc, c'est votre commencement. Et vous avez encore des liens avec les bénédictins ?
Alors, je n'ai plus de lien direct avec les bénédictins. Enfin, l'abbaye de Saint-Vendry est restée dans mon cœur parce que c'est un lieu, et notamment le père maître des novices qui m'a accompagné pour le discernement. Donc, c'est un lieu qui a été très important dans ma vie. Voilà. Mais c'est vrai que la spiritualité de Saint-Benoît continue de m'habiter. C'est évident. Oui, c'est évident.
Parce que je crois savoir que vous avez un apostolat maintenant au travers de la culture et de la beauté. Et Dieu sait que ça a été le
voilà,
vivier, le
ça.
Grand vivier de de la vie culturelle et artistique, les monastères bénédictins.
Voilà. Il se trouve que, alors j'ai été pendant les premières années de mon ministère à Paris, j'ai été pendant une dizaine d'années aumônier dans l'enseignement public, au lycée Molière, puis au lycée Janson de Sailly à Paris. Et puis ensuite, j'ai été curé de trois paroisses parisiennes. Et dernièrement, j'en suis parti il y a maintenant 5 ans, mais j'ai été curé de la paroisse Saint-Roch, dans le premier arrondissement, et aumônier des artistes du spectacle. Vous voyez comment la vocation de comédien m'a retrouvé d'une certaine façon, puisqu'un jour, mon évêque me dit « Est-ce que tu voudrais être à Saint-Roch l'aumônier des artistes du spectacle ?» Alors je lui dis, bah, autant demander à un aveugle s'il veut voir, hein, évidemment. Et alors j'ai adoré, évidemment, pendant les 11 années que j'ai passées à Saint-Roch, à la fois comme curé de la paroisse, mais aussi aumônier des artistes du spectacle, j'ai retrouvé ce milieu que j'aimais tant, ce milieu des artistes de la scène, hein, voilà, que ce soit l'art lyrique, la danse, le théâtre, voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé cet apostolat auprès de ce milieu très particulier, mais passionnant, évidemment, passionnant. Et notamment à Saint-Roch, avec la proximité de la Comédie-Française, parce que, en fait, cette aumônerie des artistes, elle est née il y a à peu près un siècle, en 1922-23. Et ça n'est pas à l'initiative d'un prêtre, c'est à l'initiative de deux comédiens de la Comédie-Française, un couple qui était mari et femme à la ville, Jeanne Delvert et Georges Leroy, qui, tous les deux très chrétiens, voulaient fonder une aumônerie catholique pour les comédiens. Et comme ils travaillaient à la Comédie-Française, ben, ils ne se sont pas compliqués la vie. Ils sont allés au plus près, à Saint-Roch, à la paroisse Saint-Roch, pour demander au curé de l'époque s'il voulait bien les accueillir. Voilà comment est née cette aumônerie, qui plus tard est devenue l'aumônerie du théâtre et de la musique, puis de la musique et de la danse, et finalement de tous les arts du spectacle. Voilà.
Et en tant à la fois que catholique et qu'artiste, du moins je pense que cette fibre-là, vous l'avez dit, elle n'est pas partie, mais... Qu'est-ce que vous pensez maintenant de la place de l'Église à ce niveau-là, culturel et artistique, alors qu'elle a été par le passé la mère, l'éducatrice aussi de la grande culture européenne et de partout où elle a été? Maintenant, ça se délite un petit peu du moins, et comment retrouver ça, ce...
Hélas, oui. Hélas, oui. C'est pour ça que lorsque j'ai quitté Saint-Roch, après 11 années, l'archevêque de Paris m'a dit « qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et je lui dis, ben voyez, Monseigneur, vous voyez, dans Paris, pour parler de ce que je connais, il y a dans les paroisses parisiennes et ailleurs des initiatives pastorales qui sont prises dans le domaine de l'art et de la culture. Parfois des choses modestes, parfois des choses plus importantes. Mais malheureusement, à Paris, il n'y a personne qui fédère un peu ça. Chacun travaille dans son coin. Ces gens qui ont un intérêt pour ça ne se connaissent pas. Et il n'y a personne qui met un peu de communication et de synergie autour de la pastorale, de l'art et de la culture. Et je trouve que dans le diocèse de Paris, ça serait pas mal qu'il y ait quelqu'un qui fédère un peu tout ça et qui dynamise un peu tout ça, et surtout qui incite ceux qui ne font rien dans ce domaine-là à avoir des initiatives, parce que grâce à l'art et la culture, on peut toucher le cœur des gens. C'est un moyen, évidemment, d'évangélisation. Et donc, pour un public qui ne viendrait pas à nos célébrations, pourrait être intéressé de venir dans nos églises pour une activité artistique ou culturelle. Alors, depuis maintenant 5 ans, ça fait déjà 5 ans, que je suis dans ma 5e année de ce nouveau ministère, c'est à la fois un défi. C'est un défi parce que beaucoup de prêtres, hélas, ne sont pas convaincus de ce que je viens de dire. Alors, ce n'est pas à charge que je dis ça, parce que les curés de paroisse, ils sont débordés par la vie quotidienne, et souvent ils me disent gentiment que, voilà, que pour eux, c'est pas, l'art et la culture, ce n'est pas prioritaire, ou ils ne sont pas forcément sensibles à ça. Moi, je suis quand même frappé, je le déplore, mais ce n'est pas une critique. Encore une fois, combien de prêtres ne vont jamais au cinéma, jamais à une exposition, jamais au théâtre, jamais à un concert, n'ont pas de vie culturelle. Je le regrette un peu. Voilà, mais c'est comme ça, peut-être un peu trop pris par les tâches du ministère.
Oui, moi, je déplore qu'ils aillent même pas à l'adoration sacramentelle, vous savez.
Ah ben... Oui, là, on est dans un autre ordre d'idées, voilà. Bon, et donc voilà. Donc, je disais, c'est un défi de convaincre les non-convaincus. Et en même temps, c'est passionnant. Voilà, je suis très, très heureux dans ce ministère. C'est vraiment très, très intéressant. D'autant qu'à Paris, nous avons la chance d'avoir aussi une structure que j'accompagne, qui est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans, alors là, par le cardinal Lustiger à Paris, qui s'appelle Art, Culture et Foi, avec une double vocation. D'abord de mettre en valeur le patrimoine de nos églises parisiennes, l'architecture, les peintures, les tableaux, la sculpture. Beaucoup de nos églises sont très riches et très belles. Et donc d'organiser des visites régulières, gratuites, par des guides formés par nous, parce qu'à travers ces visites, il peut y avoir une annonce de la foi qui est faite aussi, faire une visite qui soit catéchétique. Hein. On ne visite pas une église comme on visite le musée du Louvre. Et puis la deuxième vocation de Art, Culture et Foi, c'est de créer un lien, et ça aussi c'est un défi, avec les artistes contemporains. Dans l'art contemporain, c'est pas très facile de s'y retrouver entre ce qui est vraiment digne d'intérêt et puis ce qui parfois est un peu facilité, provocation, que sais-je encore. Il faut vraiment faire preuve à la fois de bienveillance et de discernement. Et donc c'est un peu notre rôle à Art, Culture et Foi d'accueillir des artistes contemporains, de les exposer. Nous avons la chance d'avoir une petite galerie, la Galerie Saint-Séverin, où nous pouvons faire des expositions d'artistes. Et donc, c'est une des vocations aussi de cette association.
Mon cher père, nous sommes passés au point 3 avant le point 2, donc gardons le deuxième point pour terminer cette émission. C'est la question des grands priants des anciens, de ceux qui vous accompagnent dans votre vie d'intimité avec le Seigneur, les grandes figures spirituelles qui...
Alors, il y a deux grandes figures spirituelles importantes. La première, c'est Philippe Néri, le fondateur de l'oratoire à Rome. Enfin, celui que le cardinal de Bérulle, au XVIIe siècle, va reprendre l'idée de Philippe de Néri pour fonder l'oratoire de France, mais c'est la même spiritualité. Et parce que je suis à moitié d'origine italienne par ma mère, et donc c'est pour ça que je m'appelle Philippe, à cause de Philippe Néri. C'est mon saint patron, voilà. Et donc, j'ai une proximité avec ce saint, qui est d'ailleurs, paraît-il, est le patron des humoristes, parce qu'il donnait, il confessait beaucoup et il donnait des pénitences parfois un peu saugrenues, mais toujours très intéressantes et très, très, très nourries et très catéchétiques pour la personne qui recevait la pénitence, même s'il faisait preuve d'humour et d'originalité. Et voilà, et puis c'était un apôtre de la jeunesse romaine à son temps. Hein, il est né en 1515, hein, la même année que Thérèse d'Avila et Saint Ignace de Loyola. Oui, c'est quand même une belle année, hein, quand même.
Oui,
c'est pas que Marignan, oui, 1215. Hein,
et comme eux, il avait des extases très visibles.
Oui, et alors vous savez ce qu'il faisait pour éviter ça? Il avait des extases et des phénomènes de lévitation pendant la messe. Et ça le gênait beaucoup et tout ça. Alors il avait trouvé une idée un peu saugrenue. Oui, il était vraiment un homme d'une liberté incroyable. Il mettait son chat sur l'autel quand il célébrait la messe pour éviter d'avoir des extases mystiques trop. Enfin, alors il y avait le chat qui se promenait sur l'autel comme ça. C'est voilà, ça c'est Philippe Néri. C'est toute l'originalité, la liberté et l'humour de Philippe Néri. Donc ça c'est vraiment une figure qui m'inspire beaucoup, ce grand saint. Pas très connu en France. Hein.
Avant de passer à l'autre figure, est-ce que, sans trop vous livrer, est-ce que vous faites la même oraison jaculatoire qu'il faisait tous les matins? Seigneur, méfiez-vous de Philippe, sinon il va vous trahir.
Non, je ne fais pas. Non, mais je vais peut-être m'y mettre, sur votre conseil, je vais peut-être m'y mettre dès demain. Je vois que vous le connaissez bien aussi, manifestement,
moi qui étais en train de dire. Je le prie beaucoup, oui.
Ah voilà, moi qui étais en train de dire qu'il n'était pas très connu en France, donc je me réjouis que
c'est
vous
une figure, c'est une figure admirable, oui.
Oui, bien sûr, ouais. Extraordinaire. À propos de pénitence, vous connaissez l'histoire, la pénitence qu'il avait donnée à une dame
qui se répandait de calomnie.
Oui, qu'elle disait beaucoup de calomnie, qu'elle passait son temps à dire du mal des autres, etc. Et donc il lui dit, madame, comme pénitence, vous allez prendre un poulet et vous allez aller le plumer dans les rues de Rome. La dame se dit, mais les zinzins, ce prêtre, qu'est-ce que c'est que cette pénitence? C'est complètement farfelu. Bon, elle s'exécute avec obéissance, et puis, je sais pas, un mois plus tard, elle revient, et puis elle dit, oh, mon père, vous savez, c'est catastrophique, mais vraiment, c'est toujours pareil, je peux pas m'en empêcher, je dis du mal des autres, je suis sans arrêt dans la médisance et la calomnie, tout ça. Très bien, madame. Eh bien, vous, comme pénitence, vous allez aller retrouver toutes les plumes du poulet que vous avez plumé la dernière fois dans les rues de Rome. Il dit, mais mon père, mais c'est impossible. Eh bien, madame, vos calomnies, c'est pareil, c'est irrécupérable, c'est impossible. Vous voyez comment, à travers le côté farfelu de ses pénitences, c'était plein de pédagogie. Voilà. C'est pour ça que j'aime Philippe Néri.
Il y a un côté folle en Christ chez lui, oui.
Exactement, voilà. Nous en avons besoin dans l'Église, des comme ça.
Quand même.
Voilà. Parce qu'il paraît qu'un saint triste est un triste saint, disait saint François de Sales.
Oui, j'en ai vu des saints et ils sont vraiment très joyeux, très très joyeux, voilà. Surtout au monastère, oui.
Voilà.
Et alors, la deuxième figure.
Vous avez droit à une deuxième figure? Bon.
Oui.
Alors, la deuxième figure qui m'a marqué, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tout ça pour une raison simple, finalement, et belle, qui m'étonne toujours. La médecine avait déclaré à ma chère maman qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Voilà. Après 4 ans de mariage, mes parents n'avaient pas d'enfant. Et ils ont eu l'idée, alors pourquoi, je ne sais pas, parce que mes parents n'étaient pas des piliers de sacristie. ils ont eu l'idée d'aller faire un pèlerinage à Lisieux. Et maman, et pour demander la grâce d'avoir un enfant, bien sûr, à Thérèse. Et maman est tombée enceinte à l'issue de ce pèlerinage. Voilà.
Très bien, cher père.
Alors, voilà, j'ai un lien très fort, c'est ma petite sœur, quoi. Elle a dû dire à ma mère, je te préviens, je te le donne, mais je le récupère à la sortie, hein, voilà. C'est peut-être pour ça aussi que je suis prêtre, hein, parce que Thérèse priait pour les prêtres, et donc, voilà. Et donc, la figure de Thérèse est quelqu'un qui me touche beaucoup, par sa, elle aussi, quelle liberté elle a eue, quand on pense à l'éducation qu'elle a eue, à la spiritualité de son époque. Dans son journal, elle râle contre les sermons du Carme qui vient prêcher au Carmel. Elle se dit, mais c'est pas ça, il prêchait sur l'enfer, il prêchait pour leur faire peur. Voilà. Mais elle a eu le sentiment tout de suite, l'intuition, mais que c'était pas ça l'amour de Dieu. Et que voilà. Et donc c'est une femme qui est d'une liberté absolument incroyable. Et c'est une, voilà, je remercie le pape Jean-Paul II d'en avoir fait un docteur de l'Église.
Docteur de l'Église qui regrettait de ne pas avoir le don de la peinture. Elle s'essayait à quelques peintures qui étaient...
Oh, mais elle voulait tout faire, Thérèse. Ah, elle voulait être missionnaire, elle voulait tout faire. Elle était incroyable, elle voulait être... voilà. Elle disait, ah, que je regrette de ne pas être prêtre. Ah ben vous qui vous appelez ma radio Maria. Alors, elle disait, que je regrette de ne pas être prêtre pour pouvoir prêcher sur la Vierge Marie. Voilà. Parce que si je prêchais sur la Vierge Marie, je ne dirais pas toutes les bêtises que j'entends dans les homélies. Non, mais elle est incroyable, Thérèse.
Père Philippe Desjeans, merci de votre passage sur les ondes de Radio Maria France. C'était une joie de vous entendre et de vous découvrir.
Merci à vous, c'est un grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.